Bonjour Monsieur Aplogo. Tout d'abord, la rédaction d'ITMAC.SN vous remercie d'avoir bien voulu accepter d'être le deuxième invité de sa rubrique mensuelle, l'invité du mois. Pour entamer cet entretien, pouvez-vous vous présenter à nos visiteurs, nous donner un peu une idée de votre parcours?
Je suis le directeur général d'Afrinic, que je gère depuis sa création en 2004. Je suis ingénieur électrique de formation avec un MBA, donc avec une déviation vers le management plus tard, et gérer les nouvelles technologies dans plusieurs sociétés africaines et en France avant d'être aujourd'hui à la tête d'Afrinic.
Pouvez-vous nous dire un peu ce qu'est Afrinic? Nous faire un peu son historique et nous dire c'est quoi son rôle.
D'accord. Alors, historique, pour faire bref, Afrinic est le résultat d'un principe de gestion des ressources Internet qui veut que chaque région géographique ait un registre. Avant Afrinic, il y avait un registre pour l'Europe, un registre pour l'Asie et le Pacifique, un registre pour l'Amérique du Nord et un registre pour l'Amérique latine. L'Afrique était le seul continent, la seule région qui n'avait pas de registre formel. Ça faisait que les opérateurs en Afrique étaient servis par soit le registre européen ou soit le registre américain. Donc en 97 plus précisément, un certain nombre d'opérateurs se sont mis ensemble et ont émis l'idée d'avoir pour l'Afrique aussi un registre qui va pouvoir s'occuper de la gestion des ressources Internet en prenant en considération bien évidemment les réalités économiques et sociales de l'Afrique. Donc c'est de là qu'est partie l'idée de créer un registre pour l'Afrique. Ça a pris à peu près 5 ans pour trouver un consensus global auprès des opérateurs, de pouvoir définir, trouver le pays pour héberger le siège, les opérations, etc. Donc, disons que pendant 5 ans, la communauté en général a discuté de la faisabilité, des conditions, etc., comme on aime bien le faire dans la région, pour que finalement, autour de 2003, le processus rentre dans sa forme la plus formelle, ce qui aboutit aujourd'hui au registre. Alors, quel est le rôle d'Afrinic? Afrinic est le registre régional chargé de la gestion des adresses IP. Sur Internet, l'équipement connecté à Internet a un identifiant unique qui est un identifiant numérique qui lui permet de pouvoir communiquer avec les autres machines sur Internet. Donc, ces identifiants sont gérés donc de façon centralisée par ces registres régionaux qui sont chargés donc de les allouer aux opérateurs en bloc et en fonction de leurs besoins et de pouvoir maintenir une base de données publique permettant de pouvoir retracer ces adresses, de savoir qui utilise quoi et de s'assurer qu'il n'y a pas de duplication au niveau de ces ressources.
Nous avons bien compris que Afrinic est chargé de l'allocation des adresses IP en Afrique et en Madagascar. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment est nommé le CEO d'Afrinic et comment fait-on pour être membre du board d'Afrinic?
D'accord. D'abord, juste pour faire une précision, c'est l'Afrique et l'Océanie, pas seulement Madagascar. Nous couvrons également la plupart des îles de l'océan Indien, sinon tous. Et quel est le mode de gestion d'Afrinic? Le principe ou le modèle sur lequel est basé tous les registres, sans exception, les 4 autres registres, est un modèle participatif et où, pour être peut-être plus formel, un modèle associatif en quelque sorte, où les opérateurs deviennent membres de l'association et à partir de ce moment participent en direct à la gestion du registre. Nous avons donc des membres de différentes catégories dans la plupart des pays, sinon tous les pays africains, qui utilisent les ressources dont nous sommes en charge. Et en devenant membres, ils deviennent, ils prennent une part active dans la gestion du registre. Première chose. Deuxième chose, cette gestion est facilitée par ce que nous appelons l'approche ascendante, la définition des politiques et des règles de gestion au niveau de la Freinet, ce qui veut dire que tous les opérateurs ont leur mot à dire dans la façon dont nous gérons spécifiquement ces ressources Internet. Comment est-ce que le conseil d'administration est formé et comment, par exemple, le CEO est élu? Le conseil d'administration est élu par les membres dans leur ensemble. Et nous avons, dès le départ d'Afrinic, choisi un mode très inclusif du conseil d'administration où chaque sous-région africaine est représentée au conseil d'administration. Ce qui veut dire que nous avons un représentant de l'Afrique du Nord, un de l'Afrique de l'Ouest, un de l'Afrique centrale, un de l'Afrique de l'Est, un de l'Afrique australe et un de l'océan Indien qui siège au conseil d'administration. Chacun de ces membres sont élus avec un membre qui est un membre alternate, un membre secondaire. Donc le conseil d'administration représente en fait globalement les 6 sous-régions identifiées en Afrique. Ils sont donc élus pas seulement par les membres de ces régions, mais ils sont élus par les membres africains globalement. Ce qui veut dire que quand on a une élection pour le représentant au conseil d'administration de l'Afrique de l'Ouest, c'est toute la région qui vote pour élire cette personne. Ce qui fait que quand ils sont au board, au conseil d'administration, ils ne défendent pas forcément les intérêts de leur région, ils ne sont pas beaucoup défendre une région, mais ils sont au bord pour défendre une institution, pour défendre Afrinic comme représentant l'Afrique globalement. Et le conseil d'administration, bien évidemment, embauche un directeur général qui siège aussi au conseil d'administration. En tant que directeur général, j'ai un siège au conseil d'administration. C'est un siège qui n'est pas élu, mais un siège nominatif.
Pour en revenir au CEO, quel est son mandat et la durée de ce mandat?
Afrinic, avant tout, Afrinic est une société. Afrinic est une société qui a du staff et qui a aussi des opérations. Donc le CEO, c'est le directeur général de la société et qui s'occupe de l'opération au jour le jour, de faire tourner la société afin de pouvoir offrir le service. Donc c'est en plus d'être un membre du board au niveau stratégique et direction de l'entreprise, le CEO est celui qui gère au jour le jour cette entreprise qui est Afrinic. Afrinic est une entreprise enregistrée légalement, qui a du staff, qui a des opérations, etc. Donc le mandat du CEO est de gérer la société et de la faire vivre. Le CEO n'est rien d'autre qu'un directeur général.
Après avoir mieux fait connaissance avec Afrinic, venons-en à ses activités. Afrinic a en charge la migration des adresses IPv4 vers IPv6. Quel est le principal intérêt de cette migration?
Alors, le principal intérêt, c'est juste le développement d'Internet. Alors, je vous explique la base même, ou la raison même de la migration. Les adresses, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des identifiants. Au niveau d'IPv4, ces identifiants sont représentés sur un certain nombre de ce que nous appelons de bits. Aujourd'hui, les adresses IPv4 sont codées sur 32 bits, ce qui donne un maximum de à peu près 4 milliards d'adresses possibles et de façon théorique. Et quand Internet a été défini comme protocole, comme standard, on est parti sur la base de la possibilité d'adresser à peu près 4 milliards d'équipements connectés sur Internet. Ce qui se passe aujourd'hui, tout simplement, c'est qu'avec la croissance d'Internet, avec l'utilisation grandissante d'Internet, cette plage de numérotation qui doit être unique est en train de s'épuiser. Il n'y a plus assez de numéros pour pouvoir identifier des machines qui vont se connecter. Anticipant cette exhaustion possible de la plage d'adresse IPv4, l'IETF qui définit les standards sur Internet a travaillé et défini un nouveau protocole, donc qui est la version 6 du protocole. Aujourd'hui, nous utilisons communément la version 4, la version 6 du protocole, qui permet d'adresser beaucoup plus d'équipements, parce que la plage d'adressage a été élargie significativement. Et en plus de ça, ce nouveau protocole a intégré également certaines leçons acquises du déploiement d'IPv4, c'est-à-dire certaines, failles ou certains problèmes qu'on a au niveau d'IPv4 ont été plus ou moins corrigés avec ce nouveau protocole. Donc, c'est un nouveau protocole d'Internet. Ce n'est pas un nouveau Internet, mais c'est une nouvelle façon pour les machines de pouvoir communiquer entre elles et sur lequel on va faire passer naturellement tous les types de services que nous connaissons aujourd'hui sur Internet. Donc IPv6 vient juste permettre d'élargir la plage d'adressage sur Internet. Alors pourquoi il faut migrer vers IPv6? La raison est toute simple. Si on veut continuer à soutenir la croissance d'Internet telle que nous la connaissons aujourd'hui, et sachant qu'Internet devient de plus en plus un élément clé, tant économiquement que socialement, il va falloir penser aux milliards d'autres personnes qui vont bientôt se connecter à Internet et qui auront besoin d'identifiants. Donc IPv6 va permettre de pouvoir assurer cette fonction, de pouvoir allouer des adresses donc à ces nouveaux arrivants. Et également, on n'a pas encore tout vu, explorer les nouvelles fonctionnalités d'IPv6 pour offrir de nouveaux services sur Internet, des services qui, comme nous ne connaissons peut-être pas aujourd'hui, ou qui sont encore expérimentables. Donc, IPv6, c'est la continuité d'Internet sur une échelle plus grande.
Prenons l'exemple tout simple de mon cousin qui a acheté un Pentium 3 d'occasion pour se connecter à Internet. Le protocole IPv6 qui est en train d'être mis en place sera-t-il compatible avec son ordinateur? Et de manière plus générale, Afridic a-t-elle mené une étude pour avoir une idée des équipements qui seront compatibles IPv6 et du coût réel de cette migration?
Non, ce n'est vraiment pas dans notre mission, nous, de faire ce genre d'études en tant que telle. Je pense qu'il y a beaucoup de spéculation autour du coût de la migration d'IPv6, mais il faut savoir que tout... ce ne sont pas les équipements en tant que tels qui sont le problème au niveau de la communication sur Internet, ce sont ce qu'on appelle les operating systems, les systèmes d'exploitation, les systèmes d'exploitation qui tournent sur ces équipements qui sont le problème. Donc, si vous avez un P3 que vous arrivez à tourner parfaitement Windows XP ou Windows Vista, vous avez IPv6 qui tourne déjà par défaut, donc pas besoin de faire une mise à jour. Maintenant, si vous utilisez des équipements qui sont vieux et qui ne peuvent pas supporter les systèmes d'exploitation récents, ça pose un autre problème de renouvellement d'équipement. Donc, au niveau des coûts, aujourd'hui, la plupart des systèmes d'opération, tout ce qui a été développé depuis les années 2000, en 2000-2002, sont compatibles IPv6. Donc, il n'y a pas de coût réel par rapport à ça si on a des équipements récents. Bien évidemment, si on a des équipements vraiment vieux, il va falloir trouver des façons de pouvoir les patcher ou carrément les changer. Au-delà des équipements, la réelle problématique au niveau du IPv6, c'est la formation et l'information des gens sur ce qu'est IPv6, sur ce que IPv6 apporte et sur comment l'implémenter. Et c'est sur ce registre-là que Afrinic intervient directement, notre création. Et ceci, il faudra le préciser, en avant-garde de tous les autres registres, tous les autres quatre registres, nous avons été les premiers à avoir mis en place de façon très claire une politique de formation et d'information spécifiquement à IPv6. Pourquoi nous avons pris ce challenge, en quelque sorte, en 2005, alors que personne ne parlait, je veux dire, 2004, même personne ne parlait d'IPv6, c'est parce que nous croyons que l'Afrique étant l'un des derniers continents à vraiment utiliser ou à vraiment se connecter à Internet et à faire d'Internet un élément, un outil viable dans son économie, a tout à gagner en se mettant dès le départ sur une technologie qui est innovante, nouvelle, à ne pas attendre d'abord qu'il y ait exhaustion du protocole actuel pour se retrouver dans une situation de crise et d'urgence comme nous avons l'habitude de le faire dans plusieurs autres cas. Mais nous nous sommes dit que les prochains millions ou milliards de personnes qui vont se connecter à Internet, une bonne partie viendra de l'Afrique. Et le potentiel de croissance d'Internet en général vient des pays en voie de développement. Nous avons besoin d'être prêts à soutenir ce développement. Et IPv6 est incontournable quand on parle de développement d'Internet. Donc nous avons mis beaucoup d'énergie et de ressources sur la formation d'Internet. Nous en avons organisé plus de 40 formations dans près de 30 pays en Afrique. Donc ce que nous faisons, nous, essentiellement, et qui rentre directement dans notre champ d'action, c'est surtout la sensibilisation. La sensibilisation des utilisateurs, la sensibilisation des opérateurs, parce qu'ils sont des éléments critiques de cette transition-là, la sensibilisation également des législateurs, des gouvernements, des régulateurs, sur la nécessité de basculer à l'IPv6. Quand cette sensibilisation est bien faite et que les gouvernements, les législateurs, les utilisateurs, les opérateurs commencent à regarder de près ce qu'ils utilisent, tout naturellement, les constructeurs feront évoluer leurs équipements pour supporter l'IPv6, parce qu'à partir de ce moment, il y aura une demande, il y aura un processus qui permettra aux utilisateurs de dire « Est-ce que ce que vous me vendez est compatible IPv6 ?»« Pas compatible IPv6, je n'achète pas, tout simplement, c'est aussi simple que ça. » Et à partir de ce moment, les constructeurs divers et les développeurs d'applications vont devoir s'ajuster et rendre leurs équipements compatibles IPv6.
Quels sont, M. Aplogon, les pays que l'on pourrait considérer à cette étape de la migration de bons élèves?
Alors, c'est une situation assez variable. Déjà, nous ne définissons pas cette campagne comme une campagne, un projet de transition. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de date butoir où on va dire à partir du 1er janvier, je ne sais pas, 2015, il n'y aura plus IPv4, il faut tous basculer à IPv6. Donc, il y aura une cohabitation entre les deux versions du protocole pendant très longtemps. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être prêt pour faire fonctionner tant IPv4 qu'IPv6 sur les machines, à pouvoir avoir les mécanismes de transition quand on a un réseau entièrement IPv4, de pouvoir avoir un mécanisme pour permettre aux équipements qui ne comprennent qu'IPv4 de pouvoir parler à des équipements qui ne comprennent qu'IPv6. Il y a des mécanismes en place pour faire ce genre de connexion, ce genre d'interfaçage. Donc ce sont ces techniques-là que nous essayons de divulguer, de montrer aux gens. Donc il ne va pas y avoir une transition, donc une date précise où on va dire, allez, IPv4 est mort, on vive IPv6, non. Il va avoir un processus de transition très smooth où graduellement les équipements vont migrer vers IPv6. En Afrique, la situation, comme je dis, elle est disparate. Je tiens à noter d'abord qu'en 2004, quand nous avons commencé notre campagne sur IPv6, il y avait que 4 allocations IPv6 en Afrique. 4 opérateurs qui utilisaient IPv6. Aujourd'hui, nous en sommes à 64. Ce qui veut dire que ça a commencé à prendre tout doucement. Et de plus en plus d'opérateurs commencent à consacrer du temps. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, constitue le pays qui a le plus d'allocations IPv6 pour l'instant. Et cela suit la tendance d'IPv4 aussi, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais par contre, l'Afrique du Sud est suivie de très près par le Kenya et l'Égypte, qui, au niveau d'IPv4, n'occupent pas forcément les mêmes rangs. Donc je dirais que les 3 pays qui aujourd'hui vraiment sont en train de faire beaucoup de choses sur les PDC, c'est l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Égypte.
Parmi ces adresses IPv6 déjà réservées, avez-vous une idée, M. Aplogon, du nombre visible sur Internet et de leur utilisation finale?
Alors, je vais parler en termes de pourcentage pour l'instant. Sur les nombres, le nombre réel, c'est énorme. Et je vais essayer de faire la conversion d'ici la fin pour vous donner une idée précise. Mais aujourd'hui, sur les allocations que nous avons dans la région, nous avons à peu près 40%, de toutes les allocations IPv6 dans la région qui sont visibles sur Internet. Et il faut aussi faire une différence entre les adresses IPv6 qui sont visibles sur Internet et les opérateurs qui vraiment offrent des services sur IPv6. Parce qu'il y en a qui annoncent ces offres, mais qui en réalité n'offrent pas derrière des services. Ils ont leur cœur de réseau prêt pour utiliser IPv6, mais au niveau des services derrière, ils n'ont pas vraiment de service IPv6. Il y a une étude plus poussée qui montre que l'Afrique aujourd'hui, en termes de proportion, est en tête de toutes les régions en termes de visibilité sur Internet. Parce que quand on prend le nombre de réseaux visibles sur Internet globalement, et quand on regarde la proportion de ces réseaux qui sont compatibles IPv6 aujourd'hui, l'Afrique est en Afrique, il y a à peu près 29% de réseaux qui sont compatibles IPv6 comparé à 21, 17 et 16% dans les autres régions. Donc en termes de d'adresses IP, on parle là de milliards d'adresses IP, parce que chaque allocation IPv6 constitue des milliards d'adresses IP. Donc on voit déjà la grande différence entre IPv4 et IPv6, alors qu'on parle de 4 milliards d'adresses au total pour IPv4, total. Pour IPv6, on parle de milliards d'adresses IP. Là, il y a des milliards, il y en a des centaines de milliards qui sont déjà alloués rien que dans la région Afrique.